Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement.
Nous devons savoir.
Pour enfin démêler l'actualité judiciaire dans le monde du sport.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Alors, Maître Mongeon qui a ajourné là, pour la séance d'aujourd'hui, et puis on appelle à la barre Maître Arnaud Anderson. Comment ça va, Arnaud?
Salut, Arnaud.
Ça va bien, vous?
Hein, ça va très bien. Ça va très bien. Arnaud, qui est un fan de F1, on se parle un peu de F1 avant d'embarquer.
Oui, hein? c'est vrai. Ben oui.
Mais cette semaine, on va un peu ailleurs. D'ailleurs, au podcast de Sophie, qu'est-ce qu'on a cette semaine?
Oui, l'invité de la semaine, c'est M. Louis Martin, là, un huissier de justice. Aussi, c'est le directeur de l'inspection là, à la Chambre des huissiers de justice du Québec. Sophie et M. Martin, ils vont parler de comment comprendre votre crédit, de ce qui peut être saisi par un huissier, de c'est quoi les limites de leurs interventions. C'est donc là, un rendez-vous à ne pas manquer sur la chaîne YouTube de A2Mètres ce jeudi 19h30.
Je veux savoir quoi mettre dans mon garde-robe pour cacher au huissier. donc maintenant, commençons par nos sujets cette semaine. La COVID s'est beaucoup invitée dans cette chronique-là depuis les dernières années parce que ça a touché beaucoup les règlements du sport, notamment une question de vaccination.
Tout à fait. Donc, j'ai une décision à vous parler aujourd'hui. La décision, elle sort du Centre des règlements des différents sportifs du Canada.
Okay.
C'est l'affaire Joshua Malou contre Lutte Canada.
Lutte Canada. Okay.
Lutte Canada,
okay,
exactement.
C'est bon, ça.
Et bon, justement, Sophie, vous avez parlé du Centre des règlements des différents sportifs la semaine passée, là, dans le cadre de la sortie des gymnastes et de la réponse de la ministre canadienne des Sports, là, Pascale Saint-Onge.
Oui.
Qui sont en train d'implanter là, un mécanisme indépendant pour signaler les abus et les harcèlements. Et justement, ça allait passer par le Centre des règlements des différends.
Le Centre des règlements des différends. Et donc, ça s'est rendu là.
Voilà.
Et là, c'est quoi, qu'est-ce qui a été apporté à ce palier décisionnel-là?
Et dans le fond, c'est ça. C'est que le Centre des règlements, ça fait quoi? Ça offre plusieurs services pour régler les conflits dans le sport.
Okay.
La médiation, de l'arbitrage. Et donc, là, souvent au Canada, quand un athlète n'est pas satisfait avec la décision de sa fédération sportive, ça finit par se régler devant le Centre des règlements des différends.
Une espèce de cour d'appel pour quand ta fédération donne pas un règlement que t'es pas content, finalement. Là. Tu t'en vas au palier supérieur. Là.
Exact. Okay. Puis si jamais il y a des athlètes qui écoutent ce matin, si vous vous trouvez dans une situation où vous n'êtes pas content avec la décision de votre fédération sportive, sachez que vous pouvez être présenté devant un avocat devant le Centre des règlements des différends.
Okay.
Et je dis ça, je dis rien, mais pour les intéressés, je suis certain là, que moi et Maître Mongeon seraient très, très intéressés à vous représenter si jamais ça arrive.
Excellent.
Donc, tout ça pour revenir à l'affaire de M. Malou. Bon, qui lui, malheureusement, n'était pas représenté par un avocat. La question qui était traitée, c'était de savoir si M. Malou avait droit à une exemption à la politique de Lutte Canada sur la vaccination obligatoire.
Parce que ça prenait la vaccination pour rentrer dans les installations.
Voilà.
Comme un peu partout. Là.
Voilà. Okay. Donc, je vous raconte les faits. En octobre 2021, Lutte Canada veut instaurer là, une politique disant que la vaccination était obligatoire. Évidemment, on est conscient là, que la lutte, c'est un sport... où les athlètes sont assez proches les uns des autres. C'est pas du tennis.
Mettons.
Donc, Lutte Canada estimait là, que la vaccination de ses athlètes était essentielle pour pouvoir assurer le bon déroulement sécuritaire là, des activités.
C'est dur, la prise du petit paquet à 2 mètres de distance.
Non, c'est ça.
Absolument. Puis la sueur, toute la patate.
Exact. Puis là, M. Malou, directement, lui, c'est un lutteur depuis une dizaine d'années, il fait parvenir un courriel à Lutte Canada. Et il demande une demande d'exemption pour le vaccin pour des motifs religieux.
Okay.
Dans son courriel, là, M. Malou, qui se considère chrétien pentecôtiste, il cite 23 passages de la Bible et, là, attachez votre sucre, là, il dit que des composants des vaccins contre la COVID contiennent du matériel provenant d'enfants avortés.
Oui.
Et donc, il ne voulait pas se faire vacciner contre le virus.
Gros,
Et là, que la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissait son droit là, de pouvoir être exempté.
D'ailleurs, on remercie tous les fœtus de nous avoir fourni ces vaccins-là. Sans quoi, on n'aurait pas pu être vacciné, tout ce jus de fœtus.
Bon, Lutte Canada ont refusé sa demande d'exemption. Mais là, M. Malou était absolument pas d'accord et ça s'est retrouvé devant le Centre des règlements des différents sportifs.
OK.
Là, en audience, M. Malou, il a essayé de soumettre un document tiré d'on ne sait pas trop où, là, qui disait qu'effectivement, le vaccin là, provenait de fœtus humains avortés. Et selon vous, est-ce que l'arbitre a considéré ce document-là comme valide ou admissible?
Ben, j'imagine que non.
Je pense que ça a été Alors, trousser avec le revers de la main.
C'est difficile. C'est...
Exactement.
Parce que... D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on cite le verset de la Bible où est-ce qu'on parle du jus de fœtus d'un vaccin. Là,
ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi.
Mais oui, il a circulé toutes sortes de choses sur les médias parallèles parce que les médias traditionnels, pour ces gens-là, ben, faisaient la propagande du gouvernement, étaient financés par les publicités du gouvernement pour le vaccin. Donc, on ne pouvait pas croire ce qu'ils nous disaient. Et ça a créé donc une antagonisation. Puis, toutes sortes de choses qui ont circulé comme ça. Puis, on a cru, toutes sortes de charlatans avec des choses qui semblaient plus saugrenues, mais quand même, comme c'était pas la version officielle, c'était celle qui était la bonne.
Voilà.
Une chance que ces gens-là ont pas commencé à sortir qu'il fallait manger ces selles pour s'immuniser contre la COVID, parce que t'en aurais eu beaucoup là-dedans qui l'auraient fait. Non, honnêtement, là, je le pense vraiment. Là. Une chance que ces gens-là sont pas allés là.
Au final, l'arbitre, il a tranché en faveur de Lutte Canada en disant que c'était pas suffisant qu'une personne, au final, ait une croyance sincère. Dans sa religion, là, il fallait justement qu'il y ait une preuve objective qui établisse un lien entre la croyance sincère et un enseignement de la religion. Puis même si sa croyance elle était protégée par la charte, était contrebalancée par les restrictions nécessaires de la santé publique.
Ben oui.
Donc, l'arbitre a décidé que la mesure de vaccination de Lutte Canada, elle était correcte. Et que M. Malou, il n'y avait pas de preuves suffisantes que l'Église pentecôtiste disait justement qu'il y avait des fœtus d'enfants dans les vaccins.
Bon, ils n'ont pas trouvé des fœtus, c'est bon. Maintenant, deuxième décision dont tu veux nous parler, c'est Hiddink contre l'Association de football des Maldives. C'est quoi cette histoire-là?
OK, bon. Vous vous rappelez, la dernière fois que je suis venu en onde, je vous avais parlé de la clause de force majeure.
Oui.
Dans le fond, c'est un événement là, qui est étranger, irrésistible, irréversible, imprévisible. Et que la majorité du temps, là, on peut considérer la COVID comme un cas de force majeure dans le monde du sport. Et là, le tribunal de la FIFA est venu mettre un gros bémol sur cette interprétation-là. Donc, dans le fond, je vous explique exactement là, l'histoire du coach néerlandais René Hiddink avec l'Association de football des Maldives, là, un petit pays insulaire là, dans l'océan Indien. Donc, dans le fond, en janvier 2021, M. Hiddink avait conclu un contrat là, de 3 ans pour devenir l'entraîneur adjoint de l'équipe de soccer masculine des Maldives.
OK.
Et c'est là que l'histoire devient intéressante, c'est que seulement 3 mois après, les Maldives, l'Association de football des Maldives, là, ont annoncé à M. Hiddink que son contrat était résilié parce que finalement, avec la COVID, il n'y avait plus assez d'argent pour le payer. Donc, désolé, tu peux plus être coach pour nous. Le petit problème, c'est qu'en janvier 2021, quand il a signé son contrat, les Maldives étaient bien au courant là, de la pandémie de la COVID-19.
Oui.
Eux, leur argument, c'est qu'il y avait une clause de force majeure dans le contrat et que la situation économique des Maldives était encore affectée par la COVID. Donc là, M. Hiddink était évidemment insatisfait de tout ça.
Ben oui, quand tout se fait en connaissance de cause, tu ne peux plus sortir l'argument de la pandémie. Là.
Exactement. Donc, il est allé devant le tribunal de la FIFA pour que le tribunal tranche. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le tribunal de la FIFA est venu dire que, dans le fond, l'argument là, des Maldives, c'était ridicule.
Okay.
Le tribunal est venu dire là, qu'un cas de force majeure, ça doit être examiné au cas par cas.
Non, mais c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent présentement, qui viennent de prendre entente avec leur propriétaire, avec leur patron, propriétaire des entreprises. On peut plus t'invoquer la pandémie, là, parce qu'on connaît le contexte dans lequel on vit. Là.
Exactement. Et tantôt, quand je vous disais les critères de la force majeure, il y a l'imprévisibilité. Et c'était plus imprévisible. On sait qu'elle est là, ça l'était
après
en mars 2020.
Après 6 vagues, c'est ça.
Exactement.
Ouais.
Donc, au final, la FIFA est venue dire que la COVID-19, ce n'était plus un cas de force majeure. Et justement, c'est une décision du tribunal qui est importante parce que c'est la première instance majeure là, à avoir tranché sur les clauses de force majeure dans les contrats d'entraîneurs. L'affaire, c'est qu'il y a plusieurs cas d'entraîneurs partout dans le monde, comme M. Hiddink, à qui c'est arrivé. Donc, on va voir là, s'il va y avoir un effet boule de neige après ça avec d'autres entraîneurs.
Maintenant, les athlètes qui font avancer le sport et qui font changer les règlements, dernier sujet, ça, j'aime bien ça. Tu nous parles de Shohei Ohtani, c'est un des plus récents à l'avoir fait.
Voilà. Donc, Shohei Ohtani, là, pour les gens qui ne le connaisseraient pas, les gens le surnomment le Babe Ruth des temps modernes, là, en raison du fait qu'il est capable de dominer autant au monticule comme lanceur partant que comme au marbre là, comme frappeur de puissance. Et là, la MLB a donc créé la règle Shohei Ohtani. Dans le fond, c'est quoi ça? C'est que pour accommoder le talent rare de Ohtani, ça fait en sorte qu'un lanceur qui commence une rencontre dans la formation des frappeurs peut la terminer comme frappeur désigné du moment qu'il est retiré du monticule.
Donc, il lance puis il frappe dans le match. Et si tu retires le lanceur, auparavant, tu l'as retiré, l'as changé.
Tu
peux plus venir frapper, mais tu peux le garder comme frappeur désigné.
Exactement, parce que l'an passé, ce que les Angels faisaient, c'était que du moment qu'ils retiraient Otani du Monticule, c'est qu'il faisait jouer au champ. Oui. Maintenant, ils n'ont plus besoin de faire ça. Il peut simplement venir comme frappeur désigné. Et c'est vraiment une règle qui a été faite pour lui là, à cause de ses exploits.
Ben oui.
Et c'est pas la première fois là, qu'un athlète est tellement dominant dans le monde du sport que les règles ont été modifiées. On se rappelle, Martin Brodeur, 2003-2004,
remporte deux
trophées Vézina de suite. Et par la suite, bon, c'est à ce moment-là, pendant le lockout, le 2004-2005, qu'ils ont instauré le trapèze derrière le but.
Ouais.
Donc ça, c'était vraiment directement relié à ça.
L'enlèverais-tu maintenant?
Oui, c'est Gilbert? Ça que j'allais te demander, Gilbert.
Moi, tu sais, honnêtement, il n'y a pas. Tu sais, Martin, il y avait plus de gardiens de but dans le temps qui jouaient la rondelle.
Ouais, hein?
Qui jouaient bien la rondelle. Aujourd'hui, tu sais, t'as Carey Price, t'as Mike Smith à Edmonton qui jouent bien la rondelle.
André Fleury aussi.
Oui, mais tu sais, ils n'ont pas vraiment besoin d'aller si loin que ça, par exemple. Tu sais, je pense pas qu'on aurait besoin de mettre. C'est rare qu'on va voir un gardien de but s'aventurer dans le coin, là.
Plus vraiment. Peut-être qu'il ferait plus, là.
Ouais, peut-être. Ouais, mais regarde, moi, je pense que ça fait partie du jeu. Tu sors de ton net.
Félix Anderson, il va jusqu'à la ligne rouge, lui.
Ouais, c'est ça. Mais tu sors de ton net, tu te fais prendre. Regarde, c'est just too bad, là. C'est honnêtement, là, moi. Ça me dérange pas. Le trapèze me dérange pas. Mais s'il y en avait pas, ça me dérangerait pas non plus. De la liberté au gardien de but, mais c'est de moins en moins fréquent dans la game. Là.
T'as d'autres exemples?
Oui, un autre qui est d'actualité en plus là, avec le tournoi des maîtres la fin de semaine passée. Tiger Woods était tellement dominant au tournoi des maîtres là, au début des années 2000 que le comité des maîtres là, du célèbre Augusta National avait dû instituer de nombreux changements sur le parcours pour le rendre plus difficile, pour le rendre... Là, parce que sinon, Tiger le rendrait trop facile. Mm. Puis là, il disait, il faut que les gens... C'est prestigieux comme terrain, il faut qu'elle ait l'air difficile. Et justement, c'est à partir de ce moment-là, de la domination de Tiger Woods, que maintenant, là, de façon ponctuelle, le tournoi des maîtres modifie le circuit, entre autres là, pour pouvoir s'assurer que le circuit demeure difficile avec les nouveaux bâtons plus performants.
J'aurais un autre exemple encore plus récent, Arnaud. En Formule 1, qui est notre sport de prédilection, lors de la reprise après une voiture de sécurité, Max Verstappen avait pour habitude, quand il était deuxième, de se glisser à droite du premier. Tu lui laisses le premier rang, mais pas par une voiture, pas en étant derrière lui, mais en étant collé à son aileron un petit peu en retrait pour pouvoir partir à l'extérieur quand c'est repris, amorcer son dépassement sous la voiture de sécurité qui achevait.
Ouais.
On l'a vu faire ça l'an dernier au dernier Grand Prix. Tu te souviens quand il avait changé ses pneus puis qu'Hamilton était premier, il se glissait à côté puis il venait le fatiguer à sa droite.
Il l'a fait à Bahreïn aussi, le premier du Grand Prix de la saison avec le Charles Leclerc.
Avec Charles Leclerc, effectivement. On ne peut plus faire ça. La FIA vient de faire ce règlement vers Verstappen. Il faut que tu restes sagement derrière jusqu'à ce qu'on passe la ligne départ arrivé. Oui, voilà. Exact.
Ah ouais.
Moi, je suis bien déçu de ce règlement-là. J'aime jamais ça, les reprises avec Verstappen qui gossait sur le côté, puis je souhaitais que les autres le fassent aussi. Tu sais, des reprises comme en NASCAR, là, côte à côte, ça se fait quand même. Là. Arnaud, merci beaucoup. Excellente chronique, excellent sujet.
Merci les boys.
Est-ce que Sophie de retour la semaine prochaine?
Oui.
Sinon, t'es toujours le bienvenu. Hein?
Oui, oui. Je pense que ça va être Sophie la semaine prochaine.
Excellent.
Mais j'ai bien hâte de voir.
Sophie qui amène le café, ben il m'offre.
Arnaud Anderson, merci beaucoup.
Salut.